Sébastien Lévesque, comment vas-tu?
Ça va très bien et toi, Émile Gauthier?
Ça va très bien et j'en profite pour vous annoncer que notre très attendue saison 8, ayant pour thème les Rabbit Holes, débutera le 4 octobre prochain sur toutes les plateformes.
Mais si vous êtes un membre Patreon, où que vous soyez dans le monde, elle débutera en avance, soit le 27 septembre. Patreon, c'est une plateforme de sociofinancement à abonnement mensuel qui vous donne accès à du contenu exclusif de Distorsion et à tous nos épisodes en avance, le tout sans publicité. On vous offre deux forfaits exclusifs pour nous supporter.
À 3 $ canadiens par mois, vous avez accès au forfait Distordu, qui vous offre un shout-out dans un épisode, l'accès au serveur Discord VIP, accès aux épisodes réguliers en avance, accès aux épisodes bonus en avance, 10 % de rabais sur la boutique, et ce, à chaque mois.
On a aussi le forfait Oui, monsieur! À 8 $ canadiens par mois, vous obtenez tout ce qui est inclus dans le forfait Distordu. Vous avez en plus accès à du contenu exclusif qui est dédié à ce forfait, comme un after-show après chaque épisode, des interviews, des discussions off the record, etc. Vous avez aussi également accès à un épisode secret par saison, sans parler que vous avez accès aux épisodes secrets des saisons précédentes. Également, vous avez 20 % de rabais sur la boutique à chaque mois.
Rendez-vous au patreon.com/distorsion pour vous abonner et devenir des commanditaires officiels de Distorsion.
On vous remercie énormément de votre soutien et bonne écoute.
Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur...
Distorsion, c'est également des mystères, des histoires étranges, des disparitions, des crimes, mais c'est relié... Il y a toujours... l'intervention des nouvelles technologies, de l'Internet particulièrement.
Des histoires étranges de l'ère numérique.
Un an et 28 épisodes plus tard, il est temps de revenir sur nos histoires passées.
Plusieurs cas ont connu des rebondissements inattendus.
En plus, nous avons reçu une masse importante de questions et suggestions de la part de vous, chers auditeurs.
Installez-vous confortablement, voici le bilan de la saison 2 de Distorsion. Bonsoir Émile Gauthier, comment ça va?
Ça va très bien Sébastien Lévesque, parce que ce soir c'est toujours un moment spécial,
oui.
C'est un épisode bilan.
Mm-hmm.
Donc on est entre deux saisons, notre saison 2 qui s'est terminée en décembre et notre saison 3 qui s'en vient le début mars. Donc restez à l'affût, mais c'est toujours le fun de prendre le temps entre deux saisons de revenir sur ce qui s'est passé parce qu'il y a eu plein de rebondissements dans des histoires qu'on a couvertes.
Oui, exactement. Puis en même temps, ça nous permet aussi de s'ouvrir à vous et de répondre à vos questions et de faire un peu un suivi sur tous ces cas-là qui on les surveille toujours un peu. Moi, j'ai toujours l'habitude de toujours un peu surveiller tous les cas qu'on a déjà traités parce que je suis curieux de savoir s'il va pas avoir des nouveaux éléments dans les dossiers qui pourraient vous intéresser, chers auditeurs.
Puis en plus, on a eu plein de questions. Il y a des gens qui nous ont suggéré aussi des sujets. On a fait un petit sondage aussi auprès de la communauté, aux gens qui nous ont rejoints sur le groupe de discussion sur Facebook. Mm-hmm. Et puis, c'est le fun de prendre le temps de un peu, pour nous, c'est une façon un peu de discuter avec vous puis de revenir sur des sujets qui vous passionnent, mais aussi de répondre à vos questions puis en dire un petit peu plus sur nous-mêmes.
Sur nous.
Puis qu'est-ce qu'on boit ce soir, Seb?
Ce soir, on boit une excellente bière de Boréal, qui je crois est peut-être une édition limitée. On sait pas trop. En fait, c'est la IPA du Nord-Est. Sincèrement, je l'ai bu en 2017, fin d'année 2017. Ça a été mon coup de cœur 2017. Et je crois que ça va encore mon coup de cœur 2018. Elle est vraiment bonne. Elle est fruitée. Elle a un IBU de 75. Elle a un taux d'alcool de 6%.
Mm-hmm.
Mais sincèrement, pour les amateurs d'IPA et de fraîcheur,
saveur d'agrumes. Elle est parfaite, sincèrement. Oui. Je pense que c'est la bière parfaite que j'ai connue.
C'est une bière vraiment phénoménale. Ici, nous, on a pas pris de chance. On a rempli le frigo de distorsion de cette bière-là. On s'en est ramassé une caisse. Vraiment, c'est fantastique. Vraiment, une belle découverte. Je l'ai bu aussi en fût au trèfle dans Hochelaga Maisonneuve à Montréal, qui est vraiment un très bon pub. Ils l'ont en fût. Puis je vous dis, là, c'est fantastique. Une bonne bière trouble, parfaite pour une soirée d'histoire mystérieuse.
Oh oui.
Vous pouvez faire justement comme Pascal, qui est celui qui nous offre cette bière ce soir, via la tournée de bière du site web de Distorsion. Vous vous rendez sur notre site web distorsionpodcast.com et vous allez voir, il y a un onglet tournée de bière. Mm-hmm. Vous pouvez encourager le show et payer une bière à moi et Seb. Comme ça, on a un peu plus d'énergie pour creuser ces histoires terrifiantes.
On a aussi un review 5 étoiles sur Apple Podcasts qui nous vient de Apollo 13. Savoureux jeu de mots, qui nous dit « Fameux, j'ai tout écouté la première saison en rattrapage en 2 mois et j'ai aussi découvert Ars Moriandi. Du coup, cette émission est une des premières que j'écoute dès que j'ai l'occasion d'écouter un podcast. »
Merci à toi, Apple Plow.
Oh yeah.
Seb, toi, quel a été ton moment le plus mémorable de cette saison 2?
Mon moment le plus mémorable, en fait, mes deux moments les plus mémorables, ça a été entre autres les épisodes spéciaux qu'on a enregistrés avec Simon de Ars Moriandi.
Oui.
J'aime vraiment Simon, je veux dire, on le connaît un peu personnellement, mais j'ai vraiment aimé ça, la dynamique ensemble. Ça nous changeait aussi de notre routine à deux, ça nous ajoutait quelqu'un.
On est un peu comme un vieux couple.
Ben oui, exactement.
Donc, faut raviver la flamme parfois.
Exactement, et Simon était très bon pour raviver la flamme entre moi et Emile. C'est les moments que j'ai appréciés particulièrement. J'ai aussi apprécié, c'est un moment mémorable en fait, c'est les mentions que certains médias ont pu faire de nous, de Distorsion, et un peu toutes les références ou les le bouche à oreille qui s'est fait sur notre podcast. C'est sûr que quand on fait un podcast, on s'attend toujours à ce que le plus de monde, on veut toujours que le plus de monde possible écoute, mais est-ce que je pouvais m'attendre à autant de bouche à oreille et de rayonnement si rapidement, en particulier dans la saison 2? Je dirais que pour moi, ça fait partie des moments mémorables. Toi aussi, Émile, j'imagine que tu as eu des moments mémorables durant cette saison. Quels sont-ils?
Oui, ben je dirais que c'est pas nécessairement un moment. En fait, ça se déroule toujours en ce moment aussi. C'est vraiment le rassemblement de la communauté. Oui. On s'est rendu compte que les auditeurs de Distorsion aiment discuter entre eux de plein de sujets qui parfois sont pas tellement discutés sur les réseaux sociaux ou sur dans les médias en général.
Exact.
Donc vraiment, j'ai trouvé ça vraiment fascinant de voir autant de gens se rassembler puis rejoindre la discussion sur Facebook ou même les gens qui nous ont écrit via email ou qui nous rejoignent sur Twitter ou Instagram. Je dirais aussi que la présence de plus en plus d'Européens qui nous écoutent, je trouve ça fascinant, je trouve ça cool qu'on ait percé avec nos accents québécois. Et puis, en fait, sans vouloir trop scooper, on a des collaborations de prévues avec des podcasteurs français. Il y a des très bons podcasts qui se font en France, là, pour ne pas les nommer rapidement, là, pour pas trop les mettre sur le spotlight. Notre cher Lionel Camille, avec qui on a prévu faire une collaboration éventuellement, et aussi nos deux amis du Bureau des Mystères, et un autre podcast qu'on vous suggère de surveiller, avec qui on devrait enregistrer sous peu à quelque part là, pendant notre break.
Oui.
Donc, deux moments marquants vraiment là, de voir la communauté là, se rassembler. J'ai trouvé ça vraiment fascinant. Je dirais aussi d'avoir trouvé ce fameux terme, là, les distordus.
Oui, les distordus, c'est incroyable.
Ben oui, shout-out à Nelly Brière qui a sorti ce nom-là. Je sais pas d'où est-ce qu'elle a sorti ça, mais vraiment, c'est un mot qu'on s'est approprié.
Oui,
ben oui,
vraiment.
Donc, ben voilà, une année qui était vraiment, vraiment marquante.
Incroyable.
Puis justement, ben aujourd'hui, on va revenir là-dessus. On a fait aussi un sondage auprès du groupe sur Facebook, le groupe de discussion, sur vos sujets préférés, parce que nous, quand on programme une saison, on essaie de piger dans certains sujets, parfois dans le true crime, dans les disparitions ou dans des creepypasta ou dans des sujets un peu plus paranormal ou même de conspiration. Et puis là, ben on voulait savoir un peu qu'est-ce qui vous intéressait. Et vraiment, la réponse a été surprenante. On a eu plus de 700 réponses
incroyable
à notre sondage. Et puis, en fait, le sujet numéro un, c'est les mystères, donc ce qui entoure les morts mystérieuses, les énigmes. C'est vraiment le sujet numéro un avec plus de 150 réponses, je crois. Le sujet numéro deux, c'est les creepypasta et les légendes urbaines.
Oh oui.
C'est aussi des sujets qu'on adore creuser. Vraiment. Et en numéro 3, on retrouve les disparitions. Il y a beaucoup de gens qui nous ont écrit pour nous demander d'en faire plus. Oui. On essaie évidemment d'en couvrir autant que possible, surtout si c'est encore d'actualité. Oui. On a quelques sujets de disparition quand même assez intéressants à vous amener là, dans la saison oui. 3. Et en fait, on retrouve au numéro 4 tout ce qui touche le dark web et l'informatique. Encore une fois, on a quelques bonnes idées là-dessus. Il se passe toujours des choses. Le dark web est toujours en évolution et on va certainement couvrir des sujets là-dessus pour notre saison 3. On retrouve les true crime. Ça, je croyais que ça allait peut-être être un petit peu plus haut. En fait, ce qui est relié au meurtre, les situations de harcèlement et tout ça, mais souvent ça s'entremêle.
Oui,
tous
ben
ces
oui,
sujets-là.
Oui, oui, exactement. Avec les mystères, tu sais, il y a un peu un mélange de ça aussi. Là, quand il y a des morts mystérieuses, souvent c'est lié à des meurtres.
Oui. Puis on se demandait justement si on voulait aborder plus de sujets liés au paranormal, ouais. parce qu'on n'a pas tellement couvert de sujets. Parfois, on vient à le couvrir d'une certaine façon. Par exemple, lorsqu'on parle de Max Spears ou de certains sujets, mais on n'a pas tellement couvert de cas de hantise. Là. Toi, Seb, c'est-tu un sujet que tu aimerais qu'on creuse plus?
Oui, ben oui. En fait, j'ai l'impression qu'il manque de cas. Je sais pas si, ouais. Tu sais, mais des cas crédibles, parce qu'à distorsion quand même, mis à part peut-être les creepypasta où qu'on peut aller jouer dans l'imaginaire mm-hmm. ou des John Titor, mais qui sont restent des phénomènes internet, même si, on sait pas si c'est vrai ou non, mais on se doute que
exactement,
on se doute que John ne voyage pas dans le futur, mais oui, moi c'est certain que c'est un sujet que c'est des sujets que j'aimerais qu'on creuse plus, puis justement on s'est dit que on voulait peut-être pas dans la saison 3, mais du moins où on va y trouver une petite place, on va tenter de trouver des sujets sur le paranormal, les ovnis, les maisons hantées. Moi, j'adore ça. Je suis un grand peureux, mais j'adore avoir peur. Là. J'écoute oui. les films d'horreur et tout ça. Donc, à la limite, je vous dirais, chers auditeurs, si vous avez des cas de paranormal ou de maisons hantées au Québec, au Canada, aux États-Unis, peu importe, qui pourraient être intéressants qu'on traite, n'hésitez pas aussi à nous les envoyer. On va être très ouverts.
Il y a le cas de Dear David là, oui. qui revient souvent,
oui,
même
oui,
que, en fait, l'histoire s'est continuée vers la oui. fin 2017. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire là. Peut-être mm-hmm. que ça vaudrait la peine de creuser plus. J'ose croire qu'après tout ce temps-là, c'est pas un stand publicitaire. Là.
Ben, c'est ça, en fait. C'est que ce cas-là, on l'avait un peu dans la mire dès le départ, mais on reste toujours prudent parce qu'on veut justement s'assurer que ça soit pas du fake et tout ça avant de, justement, mm-hmm. là, tu sais, de creuser le cas et d'élaborer 1000 théories si dans 3 semaines, on se rend compte que c'est un stunt pour une entreprise ou
oui.
peu importe, ou un YouTuber ou quoi que ce soit.
C'était un peu le cas de Poppy,
oui,
honnêtement.
Oui, exactement.
Parce
oui.
qu'au début, ça nous a
oui.
vraiment excité, Poppy. On a vraiment suivi ça avec intérêt. Mm-hmm. Mais après un certain temps, quand on se rend compte que, OK, ben, le projet artistique, puis là, commence à faire des shows, puis là, il n'y a plus vraiment de mystère. T'sais. Pour nous, c'est moins intéressant. C'est un petit peu moins intéressant qu'au départ, lorsque c'était plus oui. énigmatique. Là.
Oui, puis qu'on savait pas trop c'était qui. Et aussi, le dernier thème, en fait, c'est les conspirations qui terminent, mais qui a quand même 50...
Oui, un bon nombre de votes quand
oui,
même.
Oui, quand même, là, presque 60 votes. Là. Donc, les conspirations...
Ben oui, on va en faire quand même.
Ben oui, c'est quand même toujours intéressant. Là. Je crois toujours qu'on est géré par les Illuminati, mais...
On va y revenir, justement. On va
oui.
creuser le sujet.
Oui, oui, exactement. C'est quand même quelque chose qui est toujours intéressant.
On vous réserve aussi, là, si vous nous écoutez jusqu'à la fin, là, on va vous scooper notre premier épisode
oui,
de saison
oui,
3.
Oui, oui, oui.
Donc, si vous nous écoutez jusqu'à la fin, là, vous allez nous dire, oui, OK, on peut prendre le curseur et se rendre jusqu'à la fin, mais on vous connaît, on sait que vous allez rester jusqu'à la fin pour savoir, justement, quel est ce premier sujet, cette première histoire qu'on va aborder en début de saison 3. Entre-temps, Seb, est-ce qu'on est prêt à se lancer dans la rétrospective de cette saison 2?
Oui, monsieur.
Allons-y. Let's go. Let's go. Commençons en revenant sur des sujets vraiment de la saison 2, puis oui. Par la suite, on va aller un petit peu plus loin dans le temps, dans des histoires là, de notre saison 1, parce qu'il y a aussi eu des nouvelles par rapport à ça. Oui. Commençons tout de suite avec Cicada 3301. Seb, brief-nous donc sur c'était quoi ça au juste?
Oui, Cicada 3301, en fait, c'est pour vous rappeler, c'est arrivé en 2012, puis on n'a jamais vraiment su c'est qui, mais c'est un regroupement de gens qui tentaient de recruter les gens les plus intelligents de la planète en leur donnant des énigmes puis des énigmes assez complexes puis toujours mélangées avec la technologie de la cryptographie dans des endroits physiques. Mm-hmm. Vous écouterez l'épisode si vous l'avez toujours pas écouté. Et bref, il y a eu je pense que 2015 ou 2016, il y avait pas eu de nouvelle énigme, mais là il y a eu une nouvelle énigme qui est apparue début janvier. Hein.
Oui, ben en fait l'histoire derrière Cicada, à chaque début d'année,
oui,
généralement,
oui.
À chaque début janvier,
oui,
il y a
ça.
Un nouvel indice qui est posté. Généralement, c'est une image qui est postée sur 4chan ou sur, oui, Reddit ou à des endroits comme ça. Puis, en analysant le code source de l'image, les métadonnées ont réussi à dépister d'autres énigmes, d'autres puzzles qui vont même parfois aller jusque la connaissance des beaux-arts et de la poésie, de la littérature, tout en exploitant aussi certaines connaissances informatiques. Et puis là, cette année, début janvier, en fait, 2018, c'est une image qui a été postée sur 4chan, sur le forum 4chan. Et encore une fois, il y avait un puzzle à découvrir qui pointe vers une œuvre de William Blake. Derrière cette image-là, il y a encore des codes qui sont situés dans le code source. Puis ça mène à un site de type Onion, mais apparemment que ça tourne en boucle tout ça, là, que ça nous ramène par la suite au sujet sur 4chan. Mais on sait, hein, Cicada, il y avait une certaine forme d'authenticité derrière ça qui était gérée via une signature PGP,
oui,
d'incluse lorsqu'il faisait des posts de ce type-là. Et puis, dans ce cas-ci, encore une fois, en 2018, il n'y a pas de signature PGP, donc on peut pas vraiment authentifier là avec certitude qu'il s'agit vraiment, de Cicada, de l'organisation qui a fait ça. C'est sans doute un internaute ou des internautes qui ont voulu ramener un peu le buzz à chaque année. Et ça fait justement depuis quelques années qu'il n'y a pas de nouvelles, de nouveautés ou de nouveaux indices qui sont postés avec une signature authentique PGP. Donc, est-ce que c'est un pétard mouillé? On va le voir. Peut-être que, bon, en suivant justement sur Reddit, il y a toujours le subreddit de, oui, Cicada 3301 que vous pouvez visiter. Il n'y a pas tant que ça d'action, je vous dirais, mais il y en a toujours quelques nouvelles par-ci, par-là. Mais les gens attendent avec impatience.
Ben oui, on attend une nouvelle énigme, en fait. Oui.
Exactement. Les internautes, là, sont vraiment assoiffés d'énigmes, et puis ils en veulent plus. Mais là, j'ai l'impression que c'est plus d'autres internautes qui jouent avec...
ouais,
avec ce trip-là, avec le phénomène.
Exact. Puis juste pour vous préciser, les sites de type Onion, comme Émile a mentionné, c'est les, pour ceux qui auraient peut-être oublié, c'est les sites sur le dark web qui permet d'être accédé avec Tor, qui est le navigateur, qui permet d'aller au dark web. Donc aussi, on le voit qu'il faut quand même avoir, il y a une étape aussi, il y a quelque chose qui est un petit peu plus complexe, ou du moins au goût du jour, on doit dire, le dark web est tout de même au goût du jour. Donc voilà pour Cicada 3301.
Un autre de nos favoris, c'est John McAfee. Effectivement, John, il y a toujours des nouvelles par rapport à lui. Qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières semaines, Seb?
En fait, ça tourne toujours... avant de parler un peu de lui, je me suis mis une Google Alert, OK, sur...
oh, mon Dieu!
On se confie, là. Sur John McAfee. Mais c'est incroyable ces temps-ci. Il y en a à peu près chaque jour. Puis c'est vrai que ça tourne toujours autour de la crypto-monnaie. En fait, le point ce qu'on veut vous amener, c'est qu'il y a une obsession envers la crypto-monnaie. Et il y a même... mentionné, ça a été repris par un gros média britannique qui allait se, pardonnez-moi l'expression, mais qui allait se manger le pénis si le Bitcoin, je pense qu'il atteignait pas la valeur de 500 000 $ en 2020,
oh,
quelque chose
Dieu.
Comme ça. Donc, j'espère qu'il y a une bonne hygiène. Mais bref, autre chose qui nous a que John a mentionné dernièrement, c'est qu'il a avoué utiliser la crypto-monnaie pour différents services dans sa vie, dont de la pornographie, des prostituées et de la drogue. Il dit aussi d'autres plaisirs illicites, sans préciser le tout. Petite statistique intéressante, quand je fouillais ce truc-là, Les transactions en Bitcoin, 47% des transactions, parce que c'est très populaire le Bitcoin, 47% oui. des transactions sont pour, disons, des produits illégaux, des produits et services illégaux. Donc, on voit que même si c'est une monnaie très tendance, très médiatisée, que toutes les
gens ne dépensent pas.
Ben oui, c'est ça.
Que... Les gens qui en ont puis qui voudraient faire des dépenses légales, ils gardent en banque pour l'investissement.
Ben ceux
les seuls qui le dépensent, c'est ceux qui achètent des trucs illégaux.
Ben oui, ou qui transigent depuis un certain temps. Il y a quand même beaucoup de gens qui utilisaient du Bitcoin et qui avaient des Bitcoins à l'époque où ce que ça coûtait pratiquement rien ou presque, mais c'est quand même fascinant que cette monnaie-là, la moitié de l'argent sert vraiment à acheter des produits et services illicites. Donc voilà pour notre cher ami John, mais surveillez-le, c'est un phénomène sur Twitter aussi. C'est quelqu'un de savoureux à lire tout le temps.
Mais toujours pas de poursuite en vue pour John McAfee, parce qu'on se rappellera, on rit là, de ses fourbes et de ses maladresses sur les réseaux sociaux, puis de son humour. J'avoue que c'est un personnage savoureux, mais il y a peut-être une mort ou même plus sur la conscience. Là, donc John, il est pas clean à 100%.
Passons à notre prochain sujet. Emma Filipov, ce qui est un cas qui m'a quand même interpellé énormément, et toi aussi, hein, Émile. Hein?
Oui, une histoire vraiment touchante. Emma Filipov, c'est cette jeune fille originaire de Perth, en Ontario, qui est partie un jour vers l'ouest canadien, à Victoria, et puis qui est disparue du centre-ville de Victoria, où elle a été vue pour la dernière fois. Par la suite, en fait, sa mère est venue la rejoindre 3 heures après qu'elle a été vue pour la dernière fois. Elle semblait être dans un état mental en situation de paranoïa. Et malheureusement, elle n'a pas été vue depuis. Ça faisait 5 ans en novembre dernier qu'elle avait été portée disparue. Et puis, il y a eu plusieurs vigiles qui ont été tenues dans plusieurs villes. J'ai vu qu'il y en avait une même à Montréal.
Ah oui, okay.
Il y en avait une à Halifax que notre ami Jordan a organisé là-bas. Et puis, donc, très touchant. En fait, toujours pas de nouvelles théoriquement là, sur Emma Filipov. Si vous avez de l'info ou quoi que ce soit, ou si vous voulez participer à la discussion, il y a un groupe Facebook Help Find Emma Filipov que vous pouvez trouver assez facilement. C'est une belle communauté, et puis et malheureusement, toujours pas de nouvelles pour cette histoire, Seb.
Ensuite, on a Maura Murray. C'est deux théories qu'on n'avait pas eu le temps qu'on n'a pas pris le temps de vous parler lors du podcast, en fait, par rapport à sa disparition, pour vous rappeler Maura Murray.
Oui, Maura, c'est une des histoires qui a été le plus médiatisée dans les dernières années. C'est cette étudiante là, de l'Université du Massachusetts qui est disparue, elle aussi. C'est encore une histoire de disparition. Ça a été vraiment un épisode qui a été très populaire, celui-là. Oui, on le comprend parce qu'il y a tellement d'énigmes autour de cette histoire-là. C'est phénoménal. On se rappelle, elle est partie de l'Université du Massachusetts où elle avait un appartement. Elle a tout pacté ses trucs dans son appart, et puis elle est partie en voiture en direction du New Hampshire dans les montagnes en plein hiver. Elle a en fait fait un accident de voiture sur la route dans la région de Haverhill au New Hampshire, et puis en fait elle a été aperçue par un chauffeur d'autobus, et puis 15 minutes plus tard, les policiers se rendaient sur les lieux de l'accident et elle avait disparu. Elle n'a été jamais revue depuis. Il y a des gens qui l'auraient vue à plusieurs endroits, même au Québec. La théorie du Québec, même, j'en ai réentendu parler dans un autre article un peu plus tard. Toujours pas de nouvelles de Maura Murray après tout ce temps. Deux théories là, que même les auditeurs nous en ont parlé, qu'on a un petit peu moins parlé dans notre épisode, parce que c'est un gros sujet, hein, Maura Murray. Il y a eu une série documentaire qui a été produite pour couvrir ça. Il y a un podcast qui est entièrement dédié à l'histoire. Donc, pour nous, en une heure, on a été très sélectifs sur nos sujets. Mais il y a aussi des théories qu'on a eu peu de temps d'aborder. Puis tu me diras, Seb, qu'est-ce que t'en penses? Il y a celle qu'on appelle le tandem driver, le chauffeur, le deuxième chauffeur, en fait. Parce que On s'entend, Maura, elle avait tout pacté ses trucs, elle était prête pour déménager. Ouais. Elle avait fait des recherches sur son ordinateur, ouais, sur des condos à louer, ouais, dans le Vermont, dans le nord-est des États-Unis justement. Elle était déjà allée même faire de la randonnée, oui, dans cette région-là. Et puis elle était allée au guichet, elle avait acheté de l'alcool, donc elle était prête pour partir pour un bon bout. Ce qui suppose la théorie du deuxième chauffeur, c'est que peut-être que Maura serait partie avec quelqu'un d'autre, ou peut-être qu'elle aurait rencontré quelqu'un en chemin. Parce que moi, je crois pas tellement, en fait, à la théorie de l'enlèvement sur les lieux de l'accident.
Ouais, moi aussi, je trouve ça trop...
Parce que dans un délai de presque 10-12 minutes, Maura, qui était quand même très athlétique, là, elle était allée à West Point, donc, mm-hmm, elle avait fait l'école militaire. Oui. Elle était quand même grande, en forme, tout ça. Je pense pas qu'elle se serait faite enlever par n'importe qui.
Non, c'est pas un enfant. Enfin,
et je veux dire, un enlèvement qui arriverait dans ce laps de temps tellement court.
Puis personne n'aurait rien vu. Il y a, oui, eu quand même plusieurs témoins. Non, c'est vraiment étrange. Effectivement, moi non plus, je crois pas vraiment à la théorie de l'enlèvement.
Donc, il y a toujours cette théorie qu'un deuxième chauffeur serait impliqué pour qu'il y aurait justement avec qui peut-être même Maura aurait eu un dîner plus tôt dans la journée. Mm-hmm. Apparemment que justement, il y avait un gap d'une heure dans le trajet que Maura Murray a fait, okay, qui était difficile à expliquer. Mm-hmm. Lorsque des gens ont refait le trajet, bon, ils faisaient la même distance en une heure de moins. Donc, peut-être, okay, que Maura serait allé prendre une pause ou manger dans un resto, quelque chose comme ça. Et puis, il y aurait la suggestion, okay, qu'il y aurait deux voitures, en fait, qui auraient participé à ce truc-là. Moi, j'ai toujours un peu cru à la théorie que c'était une disparition volontaire. Oui, et le deuxième chauffeur pourrait aller dans ce sens-là. Vous savez, on a retrouvé un linge dans le tuyau, oui, d'échappement, oui, là, de la voiture. On dirait que c'est quelqu'un qui a voulu...
faire à croire. C'est une mise en scène.
On dirait qu'une mise en scène, même de la façon que la voiture était placée là, dans le banc de neige. Ouais, ouais, ouais. Apparemment que c'était difficile à croire que la voiture se soit, okay, retrouvée dans ce sens-là. J'ai pas en tête là, la photo exacte,
ouais,
mais c'est quand même étrange tout ça. Puis la théorie du deuxième chauffeur fait quand même du sens en y repensant.
Oui, vraiment, vraiment. En fait, moi, ce que ça me fait hésiter, mais en fait, je trouve que ça permet de justifier, selon elle, ça... Selon moi, ça a été fait justement pour... elle a voulu framer un enlèvement, j'imagine, peut-être pour clore le dossier. Puis moi aussi, j'abonde là-dedans, mm-hmm, parce que j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qu'elle a rencontré 2 heures avant puis qu'ils sont partis sur un road trip comme ça. Je trouve ça quand même impliquant pour l'autre chauffeur. Ce qui me fait hésiter, c'est toutes ces boîtes dans son appartement. Il y a de l'incohérence, en fait, je trouve, entre le fait qu'elle a voulu simuler une disparition puis qu'en même temps, elle avait tout préparé ses boîtes... est-ce que l'intention de préparer ces boîtes était vraiment d'aller les rechercher plus tard ou dans un très court laps, mm-hmm, de temps, versus là le changer d'idée? Il y a beaucoup de pas de réponse, de sans réponse, que j'ai de la misère à me fixer sur la théorie, de vraiment approuver cette théorie là mais je pense que c'est la plus crédible actuellement, parce que personne l'a vu dans les bois nulle part. Mm-hmm. Il y a pas de trace, il y a rien, donc c'est sûr que c'est une autre voiture qui l'a ramassé, hein, du moins là.
Puis, en lisant le livre de James Renner, oui, en fait, oui, True Crime Addict, oui, il y a quelqu'un qui a écrit d'une manière anonyme à James. James Renner, qui est un auteur qui a énormément couvert le oui, cas de Maura Murray. Vous pouvez suivre son blog, qui est très, très facile à suivre, là, mauramurray.blogspot.com, je crois. Ou tapez James Renner dans, oui, Google, vous allez le trouver assez rapidement. Et puis... il y a quelqu'un qui a écrit à James sur son site web, il me semble, et ils ont réussi avec l'aide des internautes à justement retracer l'adresse IP, à faire des liens, mm-hmm, avec d'autres, okay, d'autres posts qui avaient été envoyés sur d'autres forums, et puis en croisant toutes ces données-là, ils ont réussi à trouver que la personne était quelqu'un de l'entourage de Maura Murray à l'époque, mm-hmm, et ce qu'elle a envoyé comme lettre à James Renner, c'est un genre de témoignage où elle explique que Maura, c'est une disparition volontaire. Elle est partie avec son petit ami au Québec. Même dans la lettre, okay, il stipule ça. Donc, oui, c'est peut-être un troll. C'est peut-être quelqu'un, mm-hmm, qui se fout de la gueule des internautes qui, ouais, suivent encore l'histoire. Mais là, ça semble être quelqu'un assez proche de la source, là, même de la, okay, famille, il semblerait. Donc, ça supporte encore une fois la théorie du deuxième chauffeur, comme, ouais, quoi ce serait une opération... planifiée, une disparition planifiée. Il faut toujours se rappeler que 24 heures avant, elle avait fait un accident avec la voiture père, qu'elle avait été prise quelques temps auparavant dans une histoire de carte de crédit, de numéro de carte de crédit volée. Il y a des raisons pour elle de vouloir fuir. On s'entend que c'est pas des gros crimes, mais je veux dire, quelqu'un qui est peut-être un peu trop emporté par les événements pourrait avoir une attitude comme ça, là, peut-être
surtout dans la vingtaine, on est un petit peu plus pas impulsif là, mais on mesure moins nos gestes, puis on a l'impression que tout est la fin du monde aussi, là.
Une autre théorie dont on n'a pas trop discuté en fait, Seb, c'est celle de la A-frame house, là, de la maison en forme de A, cette espèce de maison à pignon. C'est en fait, cette théorie-là dit que lors d'une battue qui a été organisée par la famille de Maura Murray, donc par Fred Murray, on aurait trouvé à l'aide là, de chiens dépisteurs là, une genre de cette maison-là. Puis à l'intérieur de cette maison-là, il aurait réussi à obtenir les clés. Le chien se serait vraiment affolé dans une section du garde-robe de la maison. Et puis apparemment qu'ils auraient trouvé là, des tissus là, empreints de sang lors de cette fouille-là. On s'y est pas beaucoup attardé. C'est que en fait, les policiers, c'était pas une battue qui était organisée par les policiers, cette battue-là. Et puis évidemment que lorsqu'ils ont découvert cette maison-là, puis que les chiens se sont affolés, eh bien les policiers sont allés quand même faire un tour. Et puis eux, ils ont rien trouvé de concluant. C'est-à-dire qu'ils ont fait même des tests d'ADN qui ont montré que il y aurait du sang humain retrouvé dans ce garde-robe-là, mais en fait, il y a rien qui prouve que c'est du sang de Maura Murray.
Non, exact.
Ou il y a rien vraiment qui supporte cette théorie-là, outre cette découverte-là. Apparemment qu'il y a deux frères de la région de Haverhill qui, un des deux frères aurait accusé son autre frère d'avoir fait ça. C'est deux gars qui sont connus de la justice, si on veut, des gens qui sont pas très, très recommandables. Et puis, malgré tout, ces gens-là ont été interrogés par les policiers. Ils ont été dans le tordeur des policiers, mais malgré tout, il y a rien qui prouve que la A-frame house a été le lieu d'un enlèvement ou d'un meurtre ou de quelque chose comme ça. Mais peut-être qu'il y a d'autres résultats de l'enquête qui nous prouveront le contraire, mais pour l'instant, il semble pas avoir grand-chose. Ça semble plus être un truc médiatique, en fait, qui est sorti de là au lieu de preuves réelles.
Effectivement. Si on revient à la saison 1, un de nos cas, qui est quand même un de mes cas favoris, Elisa Lam, qui est cette Canadienne qui est partie en voyage pack-sac à Los Angeles et justement a été retrouvée dans un réservoir d'eau sur le toit du Cecil Hotel.
Oui.
Donc Elisa Lam, il y a pas eu tant de nouveautés en tant que telle sur le cas, à part qu'il y a eu au niveau culturel, si on veut, il y a eu des groupes de musique qui ont quand même fait des hommages musicaux. Il y a la musique de lui, je le connais pas du tout, c'est Ear Ir Itum qui lui a dédié ça a l'air un hommage complet sur son album. Et aussi en 2017, le chanteur Mark Kozelek du groupe Sun Kill Moon, lui, dans une des chansons, il dit qu'il nie la mort d'Elisa Lam et même sa présence dans le Cecil Hotel, en fait, et dans la chanson qui est le Stranger Than Paradise de l'album Common As Light and Love or Red Valleys of Blood. c'était un long titre.
Oui, c'est sans doute le titre d'album le plus long là, de 2017. Mais il y a aussi d'autres développements autour de l'histoire d'Elisa Lam. C'est-à-dire que vraiment l'histoire gagne vraiment en popularité. C'est rendu l'histoire le favori des YouTubers. On voit énormément de gens faire des vidéos à propos de ça, des faux documentaires, des espèces de fiction amateur. C'est vraiment une des histoires les plus lues sur le web encore maintenant. Autour de cette histoire-là, le fameux Cecil Hotel qui est réputé pour avoir été le lieu de suicide ou même que le tueur Richard Ramirez y aurait séjourné. Eh bien, le Cecil Hotel, on le sait, a changé le nom pour Stay on Main maintenant et devient C'est un peu rénové en tant que boutique hôtel, ouais, malgré le fait que le quartier autour Skid Row n'a pas vraiment changé. Mais il a été déclaré patrimoine national de la ville de Los Angeles.
Ouais, ça m'a surpris quand même. Mais c'est vrai qu'il y a de l'histoire, outre toutes les histoires tragiques, tout de même, il y a
tout
de l'histoire.
Là. Il y a eu une grande époque. Aussi, autour d'Elisa Lam, il y a eu un épisode là, sur Discovery qui a été produite là, en fait, c'est une série documentaire qui est entièrement dédiée au Cecil Hotel, Horror at the Cecil Hotel, que ça s'appelle. Ils ont dédié un épisode sur Elisa Lam. On savait qu'il y avait eu aussi un épisode là, de American Horror Story.
Oui, Horror Story, la saison 5, en fait. Oui. Toute l'histoire, toute le synopsis, la saison 5 est basée un peu sur un hôtel hanté, en fait.
Et il y a un film hollywoodien aussi, le produit par Sean Cunningham, qui est le producteur là, de Vendredi 13 et de La Dernière Maison sur la Gauche, qui lui avait annoncé un peu plus tôt là, la production d'un film, The Elevator Game, qui serait aussi inspiré de l'histoire d'Elisa Lam. Selon ce qu'il disait à l'époque, les tournages auraient débuté en 2017. Okay. Donc, je sais pas si c'est encore d'actualité, mais il n'y a pas eu de nouvelles depuis si le film était annulé ou pas. Donc, peut-être qu'on va avoir des nouvelles au cours de l'année. Mais Elisa Lam fait toujours couler beaucoup d'encre et fascine encore les internautes de partout.
Mais c'est normal, hein, on n'a toujours pas de réponse sur sa mort.
Oui.
On le sait pas, là, tu sais, elle a été retrouvée morte, nue, plus de linge, dans un réservoir d'hôtel où ce que le couvercle a été fermé. C'est vraiment étrange.
Avec une vidéo d'ascenseur assez
troublante, qui a été éditée par les policiers. Moi, je comprends toujours pas pourquoi. Donc, il y a plein de mystères, puis je sais même pas si un jour on va finir par avoir une réponse. Il y a quelqu'un qui sait la vérité à quelque part, là, tu sais, ça...
Tout à
toujours
fait.
Quelqu'un qui sait la vérité. Bref.
Amanda Todd.
Oui.
Qu'est-ce qu'on a de nouveau là-dessus, Seb?
Oui, Amanda Todd, qui est un peu le symbole de la cyber-intimidation. Juste pour vous rappeler rapidement, c'était une Canadienne, encore une fois, qui s'est suicidée à l'adolescence. Je pense qu'elle avait 13 ans environ, parce qu'elle avait été victime de cappers, donc des gens qui prennent des captures d'écran de jeunes adolescentes qui montent leur poitrine
sur les chat rooms,
les stream rooms, les trucs comme ça. Et elle a été énormément intimidée, là, donc... Et elle s'est suicidée. Et justement, pour souligner son anniversaire, étrangement, l'anniversaire de sa mort coïncide avec la Journée mondiale de la santé mentale qui est chaque 10 octobre. Et sa mère, depuis l'an passé, a décidé en fait de créer cette journée-là, de plutôt s'allier à la Journée mondiale de la santé mentale, parce qu'un suicide, on s'entend, même si elle a vécu beaucoup de choses graves, qu'on peut comprendre son acte, ça reste un trouble mental, quand on décide de suicider. Bref, ça s'appelle Éclairer le monde en violet, Light Up for Purple. Justement, même à certains endroits dans le monde, il y a eu des édifices qui ont été illuminés le 10 octobre dernier en mauve pour souligner la mort d'Amanda Todd. Petite mention aussi pour vous rappeler que au moins le coupable qui a amené, qui l'a intimidé le plus, si on veut, a quand même été condamné à 11 ans de prison en mars de 2017. Donc au moins il y a eu un coupable en arrière de tout ça. Ça ramènera pas Amanda, mais ça l'a quand même. Voyons un peu le côté positif des choses, là, puis même ses parents le disent, là, au moins sa mort a amené un petit peu plus de conscientisation sur la cyber-intimidation là, par rapport aux parents et cette surveillance-là, qui est un peu nouveau, hein, les parents, des fois tu sais pas trop, la vie ça va vite, t'es un peu naïf, tu sais pas ce qu'ils font toujours derrière leur ordinateur, donc au moins ça l'a amené ça.
Puis aussi, je crois que ça a conscientisé les médias traditionnels à tout ce qui touche au phénomène des cappers, puis à ce genre de crimes commis en ligne qui n'étaient pas nécessairement connus du public. Donc l'histoire d'Amanda Todd, je crois, va avoir éveillé un peu là, les forces judiciaires, mais aussi le public sur ce genre de crimes-là qui touche énormément la jeunesse, là, spécialement en ligne.
Effectivement. Et même pour vous rappeler, l'homme qui a été reconnu coupable, il est en attente d'un procès au Canada. En fait, lui, il a été condamné en Hollande, mais donc il va être aussi poursuivi au Canada. On s'est toujours demandé comment ils vont gérer la prison entre les deux pays. Bon, bref, à suivre.
Une histoire qui a passionné un peu tout le monde et que vraiment va continuer de oui. passionner encore le plus grand public, je dirais, c'est le Slender Man. On se rappellera de cet épisode là oui. dans la saison 1. Le Slender Man, c'est un creepypasta, si on veut, une créature créée sur Internet, mais qui a quand même eu des effets dans la vraie vie. C'est-à-dire que deux jeunes filles ont tenté d'assassiner leur meilleure amie, des jeunes filles âgées de 12-13 ans, ils ont poignardé là, à plus de 18 reprises une de leurs meilleures amies dans le but de satisfaire le Slenderman, dans le but d'éviter des conséquences de ce ouais. personnage fictif qui les habite là, dans les rêves. Là. Donc, il y a un peu de schizophrénie, je crois, là-dedans, du côté oui. d'une des...
C'est Morgan, je crois.
Oui, exactement. Une des deux jeunes filles là, qui a poignardé. Heureusement, la victime s'en est sortie. Elle est en santé.
Oui, elle va bien maintenant, oui.
Et malgré tout, le Slenderman continue de fasciner les gens. C'est le creepypasta le plus populaire et va même avoir un film oui. hollywoodien créé là-dessus. C'est produit par Sony Entertainment. C'est intitulé le Slenderman, évidemment. Et c'est réalisé par Sylvain White, que je ne connaissais pas. Mais Sylvain White, c'est un réalisateur français qui aurait réalisé, entre autres, La Marque des Anges avec Depardieu oui, oui. et Joey Starr. Donc, c'est quand même un bon réalisateur. J'ai ben hâte oui. de voir... qu'est-ce que ça va donner. En voyant le trailer, ça nous a pas tant que ça donné envie.
Je suis pas convaincu, non.
Non, on n'est pas trop convaincu, mais vous allez entendre parler du Slenderman encore dans la prochaine année, c'est sûr.
Ouais, effectivement. Même le père de la victime, en fait, lui, il était contre la sortie
ah,
du
oui.
film. Je comprends ce qu'il veut dire, mais en même temps, c'est sûr que quand tu as été victime, tu peux pas être objectif par rapport à ça, puis c'est sûr que ça va toujours te ramener au drame, mais je crois pas que de faire un film sur un personnage fictif va inciter d'autres jeunes ça incite pas au crime là, tu sais, la plupart des gens sains d'esprit ne font pas ces liens là, ils font une différence entre la réalité et la fiction là.
Puis, de toute façon, le Slenderman, le film, je ne crois pas qu'il raconte l'histoire précisément de...
Ça n'a aucun lien
non,
avec le
ça.
Cas en tant que tel. C'est vraiment le Slenderman, le personnage qui a dû être décliné mm-hmm. dans une autre histoire, dans un scénario autre. Non, c'est ça, c'est qu'il n'y a même pas de lien, il n'y a pas de mention, il n'y a aucun lien avec l'histoire. Donc, mais tu sais, les journalistes sont allés le voir. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Ils ne diront pas où il y a un film sur mm-hmm. le personnage qui a failli tuer ma fille. Là. Mais ben, en même temps, bon, je trouvais que son propos est un petit peu exagéré.
T'avais aussi des nouvelles à propos de Silk Road, Seb.
Oui, Silk Road, on se rappellera qui était
le marché noir du Dark Web.
Oui, exactement, qui était un peu le premier marché noir justement sur Internet où il y avait beaucoup énormément de transactions de drogue à l'époque par Ross Ulbricht, qui est toujours en prison actuellement pour son crime. Et on se rappellera que il y a rien de beau hein, même dans la police. Il y a deux des agents qui ont travaillé sur le dossier là, Monsieur Bridge et Monsieur Force, qui oui. ont été condamnés quand même à 6 ans de prison parce qu'ils avaient volé environ 800 000 $ en valeur de Bitcoin. Ça, on vous en avait parlé durant le cas, mais il y a eu un nouveau développement en vers la fin de l'année passée. En fait, ils se sont rendus compte qu'ils avaient volé. Écoutez, 1500 bitcoins, ce qui représente... il avait volé une somme supplémentaire de bitcoins, de 1500 bitcoins, qui équivaut à près de 12 millions de $. Puis ça, c'était l'évaluation au moment. Là, ça pourrait être plus, là, je vous dirais, avec la hausse du bitcoin, imaginez. Donc, ils ont rajouté 24 mois de prison supplémentaire. Ils ont tout saisi, bien sûr. Et le coupable, il s'excuse de ça. Mais tu sais, la journée avant qu'il rentre en prison, ils ont fait un raid chez eux parce qu'il soupçonnait qu'il allait se sauver. Il y avait des faux passeports, des bagages. Tu sais, le gars, il est pas clean, là. T'sais.
Non, non.
On voit qu'il a voulu se sauver. Il a utilisé la clé privée du Bitcoin, des autorités, dans le fond, pour transférer l'argent dans son propre portefeuille de Bitcoin. Puis il avait séparé ça dans plusieurs portefeuilles. Il est un peu naïf. Il devait pas trop comprendre la technologie de Bitcoin parce que c'est même si c'est anonyme, c'est hyper traçable, plus que de l'argent cash. recherches. Donc, il y a toujours une trace, il y a un catalogue. Donc, je pense qu'il a fait ça en se disant, ah, personne va s'en rendre compte. Oui. Mais finalement, ça n'a pas été si compliqué que ça. Retrouver à la source, tu sais, il y a dû des gens qui ont voir que ça balançait pas dans le compte de Bitcoin des autorités. Bref, condamné à 24 mois de plus. Ce que je trouve bizarre, le ratio, on conclut là-dessus, là, mais le ratio, comme ils ont eu 6 ans pour 800 000, là, c'est 11 millions de dollars, puis ils ont juste 6 mois de plus. Je trouvais que le ratio était pas équivalent en termes d'années d'emprisonnement.
Ouais, je sais pas trop le calcul.
Il aurait mérité plus, mais d'après moi, c'est juste pour ajouter. Là. Mais bon, voilà.
Ben, je pense que le délit en soi équivaut à un certain nombre d'années. Après, le nombre d'argent que t'as volé, rendu là, exact. Ou bref. c'est clair que cette enquête-là était frôlait les limites éthiques. Là.
Vraiment, ben oui, pis on le sent, puis on. Tu sais, Russ Ulbrich, tu sais, qui est emprisonné à vie, tu sais, il a plus servi de modèle qu'autre chose par rapport à tout le dark web.
Absolument.
Puis ça a même pas, à l'époque, ça a même pas servi, ben pas que ça a pas servi, mais je veux dire, il y a eu après ça Alphabet qui est arrivé justement, puis que lui s'est fait fermer aussi. Tu sais, il y a eu beaucoup de gros, après Silk Road qui a été encore plus gros, même 10 fois plus gros.
Puis le fondateur de Alphabet, on s'entend, il s'est suicidé, qui est un Québécois qu'on a couvert dans la saison 2, d'ailleurs, que vous pouvez aller écouter. Il y avait pas vraiment de mise à jour là-dessus, mais il s'est probablement suicidé, sachant ce qui est arrivé justement à Russ Ulbrich, sachant que le même sort l'attendait.
Oui, exact. Et justement, l'autre, il y a eu une avancée dans le dossier. C'est Asana, là, l'autre réseau à côté de Alphabet. Lui, il a été condamné justement dans les dernières semaines à 6 ans de prison pour avoir été comme le meneur. Je trouve que 6 ans de prison, c'est pas si mal. Je dis ça dans le sens pour Alexandre Cazès. Peut-être que s'il avait su que la peine était... parce que 6 ans, c'est sûr que ça doit être long en prison, mais c'est pas, c'est peut-être pas la fin du monde. Peut-être qu'il y aurait pas... Il n'aurait pas attenté à ses jours. Dernière parenthèse, par rapport au dark web, les fermetures de ces gros sites-là, Alphabet et Asana, ont quasiment littéralement pas tué le dark web, mais il n'existe plus actuellement, je vous dis ça sous toute réserve, sous mes connaissances, mais il existe de moins en moins de gros sites qui permettent de faire des transactions parce que la police surveille. Ah oui. Tout. Moi, je lis beaucoup sur le dark web. Il y a des arrestations continuellement. Ce n'est plus un champ libre sans autorité pour faire des transactions.
Ah non, pas du tout. On vous déconseille d'aller là-dessus, sérieux. C'est pas un endroit qui est recommandable parce que, comme tu le dis, c'est énormément surveillé.
Ah, c'est plus que jamais.
Il y a encore des sites qui opèrent. Je sais que Valhalla est encore en opération, mais outre ça, il y en a toujours un peu. Je pense qu'il y en a certains Français qui fonctionnent bien. La France a quand même une bonne présence sur le dark web, mais je vous conseille pas du tout là, de vous rendre là-dessus. Là. Vraiment pas. C'est vraiment là, c'est mettre la main dans un guépier. Là.
Oui, effectivement.
Mais justement, moi, ce qui ça me porte à croire que est-ce qu'il y a autre chose qui est sous le dark web, parce que le dark web est devenu mainstream maintenant.
Exact.
N'importe qui est capable de se downloader Tor, puis d'aller sur le répertoire des fameux sites Onion et puis de trouver un peu n'importe quoi là, assez rapidement même. Là.
Ouais, effectivement, il va se créer sûrement un autre réseau qui va être moins accessible pendant un certain temps, mais j'ai l'impression que il va toujours avoir sur le web, il y a toujours moyen de cacher ses communications, mais c'est que le dark web, au début, c'était quand même pas que c'était anonyme, mais c'était intime. C'était très peu de gens en termes de proportion qui accédaient au dark web. Là, c'est devenu extrêmement mainstream, c'est devenu connu du grand public aussi, parce que c'était pas juste la facilité, ça a toujours été facile, entre guillemets, ou pas si complexe pour quelqu'un qui a un minimum de connaissances techniques. Mais étant donné que ça s'est médiatisé, ben un peu tout le monde était curieux. Les gens peut-être qui voulaient se consommer, pas consommer, mais s'acheter de la drogue, ils se disent, ben au lieu, je vais peut-être essayer par là, les bitcoins et tout ça. Donc, j'ai l'impression qu'il existera peut-être plus de... J'ai l'impression qu'on revivra peut-être pas, le monde criminel revivra peut-être pas un genre d'Eldorado des produits illicites sur un dark web aussi facilement qu'avant. Il va toujours en avoir, là. Il y a toujours de la drogue partout et ça n'empêchera pas ça, mais j'ai ce feeling-là. Mais je sais, tu te questionnes beaucoup par rapport à ça. Tu m'en parles souvent le après dark web ou le
darker web.
Ou le dark web 2.0. Donc c'est vrai, c'est une question que j'ai de la misère aussi à répondre, sincèrement.
Parce qu'il y a plein de théories aussi, mais là on tombe un peu dans la conspiration de couches de web en dessous.
Mm-hmm.
Je sais pas si tu te rappelles, mais on en avait décortiqué quelques-unes, il me semble, mais on peut même se rendre, selon certaines théories, à un certain web qui est seulement rejoignable via des ordinateurs quantiques là, et tout ça.
Oui.
Des trucs un peu ésotériques, mais il y a rien qui est sorti de ça outre. À chaque fois qu'on lit là-dessus, c'est toujours les mêmes théories, même les mêmes mots. On a l'impression que c'est un copier-coller d'une source à l'autre. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment d'histoire à faire autour de ça.
Non, effectivement.
Mais effectivement, il est temps qu'il y ait autre chose. Mais il doit y avoir autre chose que peut-être nous-mêmes, on n'est pas au courant.
Non, exact. Puis les gens vont pas en parler sur la place publique. Mais j'avoue que je surveille quand même des sites d'autorité qui surveillent beaucoup le dark web et toutes ces choses-là. J'ai rien vu passer, mais encore là, ça veut rien dire. Puis oui, il y a peut-être quelque chose qui se trame, des nouveaux protocoles. Tu sais, c'est un peu juste ça, en fait, là. C'est de créer des protocoles qui sont pas accessibles, qui permettent de communiquer entre les gens. Mais bon, à suivre, donc à essayer de trouver un autre endroit pour vous procurer vos produits illicites. Prochain cas, le Luca Rocco Magnotta, qui est un peu une histoire qui nous a fait un peu sourire. Vous savez, bon, Luca Rocco Magnotta, il a presque plus besoin de présentation. Ce Montréalais, ou en tout cas du moins Canadien, mais qui a fait son crime à Montréal, là, qui avait dépecé un étudiant d'origine asiatique à Montréal, qui a eu toutes sortes d'histoires.
Reconnu à l'international comme le dépeceur de Montréal.
Oui, exactement. Et justement, bon, il est en prison et il s'est marié dernièrement avec Anthony Jolin au pénitencier de Port-Cartier.
Okay.
C'est une des premières fois que des prisonniers mâles, des prisonniers point, se marient ensemble. Il disait généralement, il y a un spécialiste qui disait, les prisonniers, des fois, ils se marient, mais avec des gens de l'extérieur, avec qui ils ont correspondu. Mais c'est une des premières fois que c'est vraiment deux prisonniers ensemble qui se marient. Ils vont avoir les mêmes droits que tous les couples. Ils vont avoir accès à la roulotte, je sais pas sous quelle fréquence. Bref, c'est quand même assez rigolo, si on veut. C'est sa mère qui a célébré le mariage, la mère de Luca.
C'est beaucoup trop d'images mentales pour moi. Seb, on va passer aux questions et réponses, tiens.
Oh oui!
En espérant que vous êtes satisfait de cette mise à jour sur les sujets de notre dernière saison. On a reçu plusieurs questions d'auditeurs via nos réseaux sociaux, le Facebook, Instagram, Twitter. N'hésitez pas à aller nous rejoindre. On est toujours heureux de vous répondre. Et puis, let's go, ça va nous faire plaisir de répondre à quelques-unes. Tiens, je te laisse commencer, Seb.
À quoi ressemble votre méthodologie d'enquête sur un dossier et comment vous faites le tri de ce que vous présentez ou non aux auditeurs? C'est une très bonne question.
Notre méthodologie d'enquête, je dirais que quand moi et Seb, on se rencontre généralement, même dans la vie, parfois on se voit sans faire des podcasts, on est amis dans la vie, ça arrive. Il y a toujours des histoires comme ça là, qu'on se lance, là, puis c'est un peu comme semer là des graines là, puis par la suite ça nous habite et puis
on construit
autour de ça. Donc la méthodologie commence souvent par une histoire qu'on va se lancer. Hey, as-tu entendu parler de tel truc, il s'est passé ceci, cela, il y a un mystère autour de ça, et puis check ça sur Reddit, on s'envoie des liens, et puis à partir de ce moment-là, on dirait qu'on tombe un peu dans une phase d'évaluation, là. On regarde à quel point ça nous passionne, puis souvent, quand c'est passionnant, bien on le choisit. Quand c'est ça tombe à plat à certains moments dans l'histoire ou qu'il y a pas assez de mystère, ou parfois on se dit on n'a pas vraiment de sujet autour de ça pour en discuter pendant une heure parce que c'est un peu notre format.
Ouais.
Souvent on les met aussi dans un bucket à plus petits épisodes. On se dit peut-être qu'un jour on va faire des épisodes conspiration mais compilation où on va réunir plusieurs sujets ensemble ou justement des sujets où on n'a pas nécessairement de viande là pour discuter
pour une heure,
pendant une heure. Et puis Seb, toi ça ressemble à quoi par la suite quand on se dit là, on fonce sur un sujet.
Ben là, on creuse en fait. Là, c'est là qu'on fait de la cueillette d'informations. On fouille le web, on fouille YouTube, on écoute tout documentaire, toute information possible qu'on est capable de consommer dans le temps qu'on a aussi, hein, parce que généralement des fois ça se fait vite aussi quand on a une idée, on a un trou dans la cédule, on se prend une semaine ou deux, pouf, on ramasse l'émission. Donc en fait, on prend toute l'information, on la met dans un document qu'on partage ensemble. On met beaucoup au début avant de structurer tout ça pour faire une histoire avec vous, faire un épisode, ben on amasse vraiment le max d'infos. Puis après ça, on restructure un peu tout ça, on trie, on nettoie, puis on vous balance ça au micro. Donc c'est un peu notre méthodologie. Quand on a aussi, dans certains cas, ça arrive pas tout le temps, là, mais il y a certains cas, les cas plus québécois ou du moins canadiens, qu'on peut avoir un contact aussi avec quelqu'un, comme Maura Murray, Emma Philippoff. Tu sais, on a eu certains contacts avec des gens qui ont gravité autour de ces cas-là. Là, ça aussi, on essaie aussi d'aller chercher des gens qui peuvent nous aider aussi à faire avancer les enquêtes, ou du moins avoir du contenu
absolument
pour nos épisodes. Donc, je vous dirais, ça ressemble un peu mal à ça, notre méthodologie de travail.
Après, faut structurer tout ça, parce qu'on veut pas non plus vous lire une page Wikipédia. On veut pas vous lire un article de journal. Donc, on essaie de bâtir une certaine narrative autour de ça. Souvent, on va commencer par un élément déclencheur, par exemple l'arrestation de celui qui faisait la maintenance de Silk Road, qui s'est fait prendre avec un colis là, plein de cocaïne à la porte. Et puis par la suite, on retourne dans le temps, puis on essaie de vous maintenir en haleine, puis de créer un suspense. Donc il y a ce travail là aussi qu'on fait, qui est un peu plus narratif là, vers la toute fin.
Exactement. Autre question, quel logiciel prenez-vous pour le recording, donc l'enregistrement, et le matériel physique? Donc ça, c'est plus ta partie, Émile.
Oui, ben en fait, on vous dévoilera pas tous nos secrets. Mais au niveau logiciel, en fait, moi je fais de la musique électronique, j'en ai fait longtemps là, un peu professionnellement même. Donc j'enregistre Distortion dans Ableton Live, donc c'est vraiment un logiciel de musique électronique. C'est pas le logiciel nécessairement que je vous conseille en démarrant si vous voulez faire un podcast, parce que c'est vraiment
complexe quand même.
C'est construit autour de justement des différents VST, si vous me suivez là, dans le langage là, des plugins, et justement les modules qui viennent se greffer sur le logiciel. C'est plus un logiciel de composition, mais il y a quand même une fonction multitrack qu'on appelle, où on voit vraiment sa forme d'onde, puis on peut l'éditer, qui marche très bien. Donc moi, je suis resté dans mes pantoufles de musique électronique, parce que Ableton me permet de faire cet enregistrement-là quand même de bonne qualité. Je vous conseillerais, si vous voulez faire des podcasts, d'aller plus vers un multitrack conventionnel, là, peut-être sur PC. Il y a Adobe Audition qui existe, qui est super bon. Sur Mac, il y a Logic qui existe. Il y a Cubase, autres, qui sont vraiment très chers, mais justement, Logic, je pense qu'il est pas trop cher, donc vous pouvez vous procurer ça. Au niveau du gear physique, eh bien je n'aimerais pas tout ce qu'on utilise, mais en fait c'est assez basique. On utilise des micros à condensateur qui sont quand même de bonne qualité. Tout ça passe dans une console avec des bons préamps. Souvent c'est là-dessus que je reviens, pour avoir un bon son de voix, ça prend des bons préamps. Ça rentre dans une carte sonore. La console rentre dans la carte de son, et puis tout ça c'est dans un MacBook Pro justement qui est sur Ableton Live. Et puis, j'utilise aussi la suite Isotope pour le mastering. Donc, c'est vraiment un truc qui se greffe à Ableton Live, dans lequel tous les modules pour égaliser le son, pour normaliser le son, pour faire en sorte que ça sonne bien, que ce soit à un bon niveau sonore pour iTunes et tous ces diffuseurs-là. Donc, c'est un peu ça qui résume le truc. C'est pas une tonne d'équipement. Il s'agit d'investir aux bons endroits pour avoir un bon son. On prétend pas non plus avoir le meilleur son au monde, mais on a un kit. En fait, on a des micros de voix, donc j'ai fait de la musique électronique, mais j'ai enregistré des groupes aussi de musique, donc on est dans des micros qui servent pour enregistrer de la voix. Simon Predge, quand il nous rejoint, en fait, lui, il est avec un micro de drum. Donc,
ah ben oui, c'est vrai.
Il nous parle dans un micro qui est fait pour enregistrer la batterie. Donc, vous voyez peut-être pas la différence, mais ce qui est un micro à condensateur aussi. Donc, voilà, on utilise de l'équipement que j'ai depuis un bon bout de temps, mais qui est de bonne qualité. Une autre question ici, on nous demande quelles sont vos pages Reddit préférées ou autres contenus à suivre pour s'informer sur les mystères de l'ère numérique. C'est une bonne question, ça, Seb, hein?
Oui, effectivement. Écoute, il y a beaucoup. Ben, commençons par Reddit. Le thread Unsolved Mysteries qui est...
Ouais,
qui
c'est
est,
Unresolved.
Unresolved, oui,
Mysteries,
pardon.
Mysteries, plus précisément, ouais.
Donc, lui, c'est un de mes channels là, préférés. Puis, selon les
cas... C'est une belle communauté, en plus.
Vraiment, vraiment, j'adore ça, aller là pour ça. Mais sinon, en tant que tel... sur Reddit, c'est beaucoup le truc que je consulte, mais je consulte Reddit en général. Tu sais, moi, leur slogan, c'est « The home page of the Internet », mais oui. C'est un peu la même chose pour moi. Tu sais, je vais là, puis il y a un peu de tout hein, sur Reddit. Si vous êtes jamais allé, là, c'est R-E-D-D-I-T. Donc, parce que des fois, quand on le dit, ça peut être
oui,
un peu plus difficile.
Reddit.
Mais c'est vraiment le fun. Si vous êtes curieux, c'est un des médias web les plus populaires dans le monde actuellement. Ils ont
totalement.
Ils ont une audience incroyable. À un moment donné, on disait que Facebook avait un peu tué les forums de discussion, ce qui est pas faux, mais Reddit a recréé les forums de discussion, mais c'est concentré tout sur Reddit au lieu d'être un peu éparpillé sur le web. Et je vous dis, il y a de tout, là, sur tous les sujets, autant techniques que de vos passions, etc. C'est une source, une mine incroyable.
Oui.
L'interface est particulière, mais une fois que tu es habitué à tout ça, ça navigue quand même bien.
L'application mobile s'est améliorée
oui,
aussi.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, effectivement, elle est beaucoup mieux quand même qu'une certaine époque. Là. Ils ont raffiné un petit peu le design. Mais bref, c'est ça pour mes pages Reddit. Toi, pour sur Reddit, as-tu autre chose?
Ben, ce qui est bien sur Reddit, c'est que presque chaque histoire ou chaque sujet qu'on couvre a sa page Reddit.
Oui, exact.
Donc, Cicada a sa page Reddit. Maura Murray a une page Reddit.
Oui,
donc, souvent, ça part de là. On part de là, puis on débouche sur autre chose. Il y a des podcasts aussi qui ont des pages sur Reddit. Souvent, il y a des choses qui sont pas nécessairement des mystères non résolus, mais qu'on va voir sur comme tu le disais sur la page principale de Reddit, parce que c'est un truc qui touche l'ère numérique ou qui va nous mener vers autre chose. Ouais. Et puis de là, eh bien on creuse dans chaque avenue possible. Sinon, dans les autres sources, YouTube est une bonne source aussi.
Oui.
Moi, je vous dirais mes channels préférés, si vous aimez les histoires mystérieuses. Moi, j'aime bien, c'est Lord and Arts.
Ouais.
Son channel, c'est John Lorden, en fait, qui est sur YouTube, qui est très fort pour expliquer des histoires
simplement
mystérieuses, très simplement, avec beaucoup d'objectivité. Sa série Brain Scratch est très bonne. Donc, John Lorden est un très bon YouTuber.
C'est mon préféré.
Oui, il est excellent. John, vraiment, moi aussi, c'est un de mes préférés. Il y a Kylie Elise
aussi.
Qui est très bonne aussi, qui est une YouTubeuse qui couvre aussi...
Ouais.
Elle couvre beaucoup le paranormal aussi, mais il y a beaucoup d'histoires là, de mystères qu'elle couvre. Et puis, souvent, ça part de là et puis ça débouche sur autre chose. Toi, est-ce qu'il y a d'autres chaînes sur YouTube que t'aimes bien?
Non, sur YouTube, en fait, je navigue en tant que tel selon les thèmes où souvent je vais chercher par mots-clés quand on fait de la recherche pour trouver des nouveaux cas, là, des meurtres ou des crimes sordides ou des trucs. Je joue beaucoup avec les mots-clés sur Google, avec des précisions sur des meurtres avec liés avec des cellulaires ou des trucs pour arriver à trouver des sujets pour nous. Fait que j'utilise beaucoup Google pour faire de la cueillette et d'aller chercher des nouveaux sujets, parce que ça aussi c'est un côté qui est peut-être sous-estimé. On met beaucoup de temps dans la recherche quand on a choisi le sujet, mais de trouver les sujets, des fois on est chanceux, la vie est bonne avec nous et on a des histoires qui nous arrivent du ciel, mais à quelques moments faut quand même faire énormément de recherches pour trouver la bonne histoire qui va plaire à tout le monde, parce que des meurtres, des crimes, il y en a une panoplie, là, même que depuis que je fais distorsion, je pensais pas que l'humain, même si on vit supposément dans l'époque la plus la moins dangereuse au monde actuellement, l'être humain c'est pour sa survie hein, même il y a jamais eu autant peu de crimes, etc. Mais quand tu fouilles là-dedans, tu te rends compte qu'il y a quand même du monde fucké, puis il y a des gens qui subissent des crimes assez sordides.
C'est clair.
Donc, ben, l'autre source que j'ai beaucoup au niveau, justement, je vous parlais beaucoup du dark web, là, c'est deep.web.com. Sincèrement, si vous aimez le monde du dark web, là, surtout, allez là, c'est le la presse plus, si on veut, du dark web. Sincèrement, je sais pas combien qui sont en arrière de ce site-là, mais c'est incroyable la couverture médiatique qu'ils font de tous les cas, de partout dans le monde. C'est là aussi que tu te rends compte que le dark web, comme on vous disait, les autorités surveillent énormément de près. Il y a des arrestations tout le temps. Mais c'est un monde aussi qui est extrêmement fascinant.
Tout à fait. Il y a aussi des podcasts hein, qui sont d'excellentes sources.
Oui, exact, oui.
Écoute, on en parle souvent. Generation Y, ouais. Nighttime Podcast. On a fait des collabos avec eux. Ouais. Ars Moriendi au Québec. Aux États-Unis aussi, des bons podcasts. J'aime bien Thinking Sideways parce que c'est un podcast qui sont originaires de la région de Portland aux États-Unis. Et puis, Portland dans l'Oregon. Et puis, ils couvrent pas juste des meurtres ou des true crime. Ils vont couvrir des puzzles, des énigmes sur le web, des écrasements d'avions, des trucs comme ça. Donc, je vous les suggère si ça vous dit. Sont actifs depuis plusieurs années. J'aime bien Insight aussi, qui est un podcast originaire de Kansas City.
True Crime Garage, moi, j'aime vraiment bien. J'aime le format musical. C'est un de mes préférés. J'aime me coucher avec et l'écouter. J'écoute juste 10 minutes parce que je finis toujours par m'endormir. Oui. Là, mais à plusieurs 10 minutes, je finis par aboutir aux histoires. Mais j'aime vraiment l'ambiance de True Crime Garage. J'aime comment qu'ils montrent les histoires.
Oui.
Je sais pas, ben pour
le dynamisme entre les deux animateurs. Ils sont très généreux aussi de leur temps. Ils font ce temps-ci, je pense, 2 épisodes par semaine.
Fou. Je sais pas comment ils font. Hein. C'est incroyable.
Si vous trouvez parfois que Distorsion, c'est long parce qu'on fait des épisodes d'une heure, eux vont faire, je les ai vus récemment, ils ont fait des épisodes en 4 sous-épisodes d'une heure.
Oui, oui.
Donc, ça va durer 4 heures, une seule histoire. Donc, quand même assez détaillé. Non, j'adore True Crime Garage, définitivement.
Ça vaut la peine, si vous connaissez pas.
Prochaine question ici. Combien d'heures mettez-vous à la préparation d'un podcast? Et quand faites-vous ça? Busy guys? Avez-vous des recherchistes undercover? Exploitez-vous vos enfants?
Un peu.
Très bonne question, Seb, vas-y.
Combien d'heures? C'est dur à dire.
On en a parlé un peu tantôt.
On avait déjà parlé, mais combien d'heures? C'est beaucoup d'heures. Là. On les calcule pas vraiment, je vous dirais. Là, on enregistre... Ben, pour la préparation en tant que telle, ça doit varier. C'est au moins 5, 6, 7, 10 heures.
Oui,
là, il y a quand même beaucoup de temps, non? C'est quand même assez long. Puis souvent, c'est du temps qu'on fait aussi un peu par-ci, par-là, là, dans le sens qu'on rassemble. Donc, ça devrait ressembler quand même à ça. Mais oui, on s'entend que les deux, on a des jobs. Là, donc, c'est vrai que Distorsion, pas qu'on bouche les trous avec ça de nos temps libres, là, mais ça occupe beaucoup de nos temps libres qui sont accaparés par Distorsion. Ce qui fait aussi qu'on aime bien avoir des pauses entre les saisons aussi pour reprendre un peu notre souffle dans ce marathon.
Sortir de notre studio.
Oui, c'est ça, dans ce marathon d'épisodes et dans nos recherches et tout ça. Je pense que c'est sain aussi pour notre esprit. Non, on n'a pas encore de recherchistes actuellement. C'est pas mal nous qui font... qui fait le travail de recherche à pas mal 100%.
Parce qu'il y a des sujets que... Il y a certains sujets qu'il n'y a pas énormément d'infos à digérer. Il y a des choses des crimes qui sont arrivés très rapidement ou des sujets où on a très, très peu d'infos. Mais par la suite, c'est toute l'élaboration des théories puis les discussions qui en suivent. Tandis qu'il y a d'autres sujets qui vont être très, très complexes au niveau de l'info. Moi, je me rappelle Silk Road. On avait fait énormément de recherches. On a fait des dizaines d'heures chacun, sans doute, là-dessus. Il y a des épisodes vraiment où décortiquer la timeline, Lake City Quiet Pills aussi.
Ça a été incroyable.
Parce qu'il y a presque aucun article qui avait été écrit là-dessus. Ouais. Il fallait nous-mêmes
tout construire,
rassembler les pages Reddit comme un puzzle, si on veut. Donc, certains sujets sont vraiment, je dirais, très, très demandants au niveau de la recherche, tandis que d'autres sont assez concis au niveau de la recherche, mais on tombe plus dans l'élaboration des théories. Ouais. Donc, puis comme on vous disait plus tôt, souvent c'est des sujets qui mijotent dans nos têtes.
Oui.
Et puis vu que ça mijote, ben on va écouter un documentaire de notre côté, on va regarder telle série télé, on va lire tel livre pour s'alimenter. Donc voilà, on compte pas nos heures bien évidemment, mais oui, ça prend beaucoup de temps à enregistrer Distorsion.
Oui, quand même.
Après l'enregistrement lui-même, la production elle-même, ben là on commence à être rodé un peu, donc
c'est moins pire.
Ça dépend ça dépend à quel point on est bon, à quel point on est pas bon, donc des fois c'est plus long. ça nécessite plus de montage, ouais. Puis des fois on est assez concis, puis ça se règle assez vite.
Effectivement. Pour exploiter nos enfants, ben moi je fais un shout-out à ma fille qui est quand même souvent patiente, qui est dans les soins.
Oui, qu'elle est là parfois.
Elle est présente lors des enregistrements de distorsion, elle est dans une autre pièce, mais quand même une petite fille de 7 ans, mais elle a quand même la gentillesse de pas nous déranger aucunement, même qu'elle est fière. Même elle demande à des gens de son école, du personnel enseignant ou du service de garde s'ils connaissent distorsion, puis je trouve ça quand même assez drôle que pour cette question là aux gens, donc
on va l'engager dans notre street team.
Oui, exact.
Et on va lui demander d'aller coller des stickers de distorsion sur dans sa cour d'école.
Ouais, elle le fait déjà sur les mes ordi à la maison, donc elle est assez contente.
Autre question: pensez-vous faire du terrain, enquêter et interviewer sur place les acteurs même de l'actualité ou par Skype, genre? C'est une bonne question. Je pense que dans le format actuel de distorsion, on va pas s'imposer ça, dans le sens que...
Non, ça s'y prête moins.
Oui, parfois, on le fait un peu là, lors de certains épisodes, un peu plus de terrain, mais je dirais que le format actuel de distorsion est basé sur des sources publiques, je dirais.
Oui,
là.
Exact.
Mais éventuellement, oui, on aimerait
oui,
ça,
vraiment,
sans doute.
Oui.
Moi et Seb, on a plein de projets, mm-hmm. Donc éventuellement, on aimerait ouais. possiblement développer d'autres formats de podcast autour de ça. Puis oui, le podcast d'enquête nous intéresse. Moi, personnellement, c'est ce qui m'a amené ouais. à faire du podcast. C'est ce qui a amené plein de gens à écouter des podcasts mm-hmm. là, par Serial.
Ben oui,
donc, c'est clair que nous, on ferme pas la porte là-dessus, là, pas du tout.
Non, mais c'est pas pour le moment.
Autre question ici. Passer des heures, j'imagine, même des jours sur une affaire, une histoire, lire et voir des documents, des photos, dans quelle mesure tout ceci peut vous affecter? Est-ce que vous en rêvez parfois? Voire même en faire des cauchemars? Ne craignez-vous pas, c'est une longue question, ouais. ne craignez-vous pas à être submergé par des pensées morbides? Et si c'est le cas, que faites-vous pour vous libérer l'esprit? Plusieurs questions.
Oui, ben pour la hantise, moi c'est puis tu le sais là, moi il y a des sujets là qui m'empêchent quasiment de dormir. Comment dire? Il y a des sujets qui il y a deux types de sujets. Quand c'est des trucs comme ça a l'air banal là, mais l'effet Mandela. Moi ça m'a chaviré sur toutes mes théories de la vie puis des univers parallèles, puis ça me chamboulait, mais je trouvais ça amusant. C'était quelque chose qui me prenait l'esprit beaucoup, puis que je me faisais beaucoup réfléchir, mais c'était pas une mauvaise insomnie, si on veut.
Non.
Mais c'est quand on tombe, c'est vrai que quand on tombe dans des crimes plus graves et tout ça, je parle pour moi, tu nous en parleras après, mais ça m'empêche pas de dormir, en fait. Puis je fais pas de cauchemars par rapport à ça, mais c'est vrai que ça va me... Je vais beaucoup réfléchir au cas, puis je vais beaucoup avoir d'empathie envers les victimes quand il y a des victimes. C'est surtout ça, des fois, que je suis quelqu'un quand même d'assez émotif, mais que faut que je gère, mais c'est une empathie de quelqu'un que je connais pas, donc je trouve que ça se gère malgré tout quand même bien, mais c'est vrai que ça devient obsessionnel, tu sais, un peu comme on disait tantôt, quand on fait de la recherche puis on se met sur un sujet, on s'imprègne, tu sais, dans notre quotidien un peu du sujet, puis nous-mêmes on se relance souvent, qu'est-ce que tu penses de ça, fait que c'est ça que ça englobe, mais moi ça me perturbe pas à ce point-là, mais c'est vrai que ça occupe énormément l'esprit.
Ça, oui, moi aussi, ça va m'occuper l'esprit, je dirais, au niveau de... un peu comme une chasse au trésor.
Mmh, ouais.
Tu veux connaître ouais. Ce qu'il y a au bout. Et puis, souvent, moi et Seb, lorsqu'on prépare un épisode, on va pas le rusher. Vous allez voir ouais. qu'il y a même des sujets qu'on va aborder dans la saison 3 qu'on a en tête depuis la saison 1.
Ouais.
Mais on veut juste attendre le bon moment de savoir, d'avoir une vision éclairée sur le sujet ouais. puis d'avoir fait le tour de toutes les théories. Donc là-dessus, c'est clair qu'il y a toujours des sujets qui... comment dire, qui me reste en tête. Je dirais que Maura Murray en a fait un épisode dessus, ça me reste encore en tête. Emma Filipov aussi, ouais. Étant donné qu'on a même été en contact avec des gens
ben oui.
de l'entourage d'Emma. Donc, lorsqu'on est dans le monde réel, c'est là que je trouve que c'est le plus touchant, mais c'est là aussi qu'on sent qu'on peut peut-être être utile d'une certaine façon.
Ouais, exact. Mais ça se gère bien, là, je veux dire, on n'est pas en psychose, mais moi je deviens un peu plus j'ai pas peur de subir de crimes, mais j'ai un peu plus peur qu'avant, puis on dirait qu'on en pas qu'on les côtoie, mais on lit tellement d'histoires que c'est vrai que ça, des fois, ça devient un peu dérangeant, je vous dirais. Quand je fais beaucoup de recherches pour des nouveaux cas, c'est à ce moment-là qu'on fouille plein d'histoires. J'avoue que des fois, je me couche puis je peux avoir la nausée, hein, sincèrement. Le cas de King Proctor, entre autres, là.
Oui.
Elle qui a été vraiment assassinée de manière dégueulasse, là. Ça, il y a des cas comme ça, ça me donne la nausée. Une vraie nausée physique quand j'y pense. Ça, c'est un des symptômes que je peux avoir quand on fait de la préparation de certains cas. Là.
Ben oui, puis aussi Amanda Todd, lorsque ça touche des jeunes, moi ça me chavire. Au niveau même de la perception de la justice, je dirais que le cas de Silk Road et de Ross Ulbricht m'a particulièrement ébranlé. Mm-hmm. Il y a des sujets comme ça où ça te fait perdre le foi en la justice et que c'est vraiment troublant. Donc ça perturbe d'une autre façon, je pense.
Effectivement. Ben oui, ben ça perturbe notre regard face à la société.
Oui.
Puis c'est moi, je pourrais dire l'égalité de la justice qui est bonne pour tous. Non, effectivement, ça remet beaucoup de choses en question. Puis c'est là qu'on se rend compte que notre système est zéro parfait, là, au niveau des peines, au niveau de tout ça. Autre question, si vous avez la possibilité de connaître la vérité absolue, tous les détails de A à Z et les explications sur un seul des sujets que vous avez abordés,
oh mon Dieu,
ça serait lequel? Ça, c'est une excellente question. Je trouve ça vraiment bien.
Ben, je vais y aller, tiens.
Ben oui, vas-y.
Moi, je dirais que ce serait Max Spears.
Oh, ça, c'est bon.
Vous vous rappelez, oui. Max Spears, c'est ce conspirationniste qui prétend avoir fait des voyages dans le temps, prétend même avoir fait des voyages d'une dimension à l'autre, qui a été retrouvé mort vraiment étrangement en Pologne quelques jours avant de donner une conférence. Ouais. Vraiment mystérieux, je vous encourage à aller réécouter l'épisode, c'est dans notre saison 1. Je choisirais Max Spears parce que
si on
sait tout, ben écoutez, il y a tellement d'éléments mystérieux autour de Max Spears que de savoir la vérité là-dessus, ben on réglerait le cas des Illuminati,
oui, c'est ça,
on réglerait le cas des reptiliens, le cas des voyages interdimensionnels, du voyage dans le temps, même le voyage
Pizzagate, je pense.
Oui, même le Pizzagate qui était énormément passionné par cette histoire-là. Ouais. Donc je choisirais Max Spears là pour faire d'une balle deux coups.
Non, c'est un très bon cas parce qu'ils ont toujours pas de réponse. En fait, ils n'auront jamais la réponse parce que quand ils ont ramené le corps en Angleterre, en fait, il était dans un état impossible de savoir la vraie raison de sa mort. De mon côté, je pense que c'est Maura Murray, en fait, qui le cas que j'aimerais avoir la réponse à tout ça, parce que je suis convaincu qu'elle vit encore.
Au Québec, peut-être.
Oui, c'est ça, exact. C'est tellement mystérieux, cette disparition-là. C'est plus mystérieux qu'Emma Filipov, je trouve, parce qu'Emma Filipov est en crise. Tu sais, ça a pu mal, malgré que ça aussi, j'aimerais vraiment avoir la réponse. Mais c'est Maura Murray, s'il faut en choisir qu'un seul, voilà.
T'es pas le seul, je pense, Seb. Autre question ici. Et très intéressante celle-là. Dans les deux dernières saisons, quelles ont été vos découvertes de bières favorites proposées par vos commanditaires? Très bonne question, ça. Vas-y, Seb.
Oui, ben moi, en fait, c'est celle d'aujourd'hui, la Boréale, la IPA Northeast.
Ah oui.
Sincèrement, c'est mon coup de cœur favori de toutes les bières qu'on a eues à l'émission. Et toi?
Ben moi, je dirais que j'ai particulièrement aimé là, la saison Duval de Oval, qui était aussi fantastique. Là, vous allez dire, ouais, regardez, là, les deux prétentieux, ils font juste choisir des bières édition limitée. Je vous dirais, tiens, en revanche, que j'ai beaucoup aimé les bières de la brasserie La Fabrique de Matane, qu'on a bu, qui était vraiment délicieuse. J'ai beaucoup aimé aussi celle de l'Esprit de Clocher qu'on a bu récemment, qui était vraiment extraordinaire. Toutes nos bières sont sur notre site web. Hein. En passant, vous pouvez aller les voir.
Dans chacun des épisodes, en fait, sont écrits la bière de la semaine. Donc, avec un lien vers le site web en question. Donc, vous allez pouvoir avoir un peu d'infos là-dessus. Moi, je donnerais aussi une mention spéciale à la Castor, en fait. Qui est une excellente bière. Ils ont plusieurs variétés, là. Donc, qui est une bonne IPA. Alors, c'est de la Yakima ou...
La Yakima, oui.
La Yakima, exactement, qui est un de mes coups de cœur aussi favoris.
Absolument. Tout ça se trouve là, dans votre dépanneur de bière, là, dans votre épicerie fine.
Exactement, il y en a partout de ça.
Exactement. Et tiens, on enchaîne ici. Très bonne question. Y a-t-il une histoire que vous avez refusé de traiter par son sujet trop dur ou son manque d'information?
Ben, le manque d'informations, il y en a plein, ça sert à rien de les nommer. Ben, il y a Poppy, un peu comme on vous a dit, entre autres, là, qu'on pensait faire un épisode là-dessus. Sinon,
il y a aussi, c'est drôle à dire, là, mais Polybius, au début, on n'était pas sûr d'avoir assez d'informations. Et finalement, à force de faire de la recherche, ben, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à dire.
Il y avait du matériel.
C'est la même chose de John Titor.
Oui, ben oui, ça aussi. Moi-même, j'étais un peu sur les freins à chaque fois parce qu'on se le faisait souvent suggérer. Puis, je sais pas, il y avait quelque chose qui me j'étais pas sûr, finalement. On n'était pas sûr en tant que tel, mais finalement, c'est un super cas. Ça a fait un super épisode, même si tout ça est fictif.
Vraiment.
C'était vraiment intéressant. Avez-vous l'intention d'avoir d'autres interviews avec des podcasteurs pour les saisons prochaines? Bien sûr.
Ben oui, tout à fait. On en a deux là, qu'on vous a parlé tout à l'heure, qu'on a soulevé. On n'a pas encore de date prévue, mais on en avait parlé d'ailleurs un petit peu plus tôt. Mais Lionel Camille, avec qui on a discuté quelques fois, et le Bureau des Mystères aussi, avec qui on enregistre très bientôt. Donc, on va faire une collaboration, sans doute un épisode sur leur channel à eux et un épisode sur notre channel.
Oui.
Et donc, ça va être comme un 2-pour-1. Et puis, on vous revient là-dessus, c'est clair. Et puis, évidemment, il y a des chances qu'on réinvite Simon Predge un jour.
Sûr.
Et même d'autres podcasteurs québécois, bien évidemment.
On va se garder des scoops aussi.
Oui. Et d'autres podcasteurs américains, sans doute, aussi, ou canadiens, anglais. Mm-hmm. On aime ne pas se barrer dans les langues à distorsion. Donc oui, c'est clair qu'on va en faire d'autres. Question intéressante ici. Avez-vous considéré une version visuelle au podcast?
Question piège.
C'est dur à dire, hein?
Ouais. Ben, c'est sûr que de se filmer pendant un peu comme le format sous-écoute là, de Mike Ward, que eux, leur podcast se décline autant en vidéo qu'en audio, ça se prête mieux parce qu'il n'y a pas de montage en tant que tel.
Mm-hmm.
Nous, je vous dirais que si on voudrait faire une version vidéo de ce qu'on fait actuellement, ça deviendrait compliqué parce qu'il faudrait monter aussi la vidéo en plus du montage audio. Fait que c'est pas une avenue qu'on veut, nécessairement pas une réplique exacte du podcast en vidéo.
Ça. On veut pas se filmer avec nos écouteurs dans le studio en vous parlant. Si on veut garder le format audio.
Exact. Mais à savoir, si on veut faire une version visuelle de distorsion, ben tout est possible, en fait. Puis c'est certain que c'est quelque chose qui nous intéresse aussi. Un peu comme on disait tantôt, nous, on aime les enquêtes. On veut... On a plusieurs idées et projets en tête par rapport à ça, là, mais on n'a pas de plan précis actuellement, ou du moins que des choses qu'on peut simplement dévoiler. Mais c'est certain que c'est une optique qu'on a de faire de la vidéo avec distorsion, mais sous un format, une production vidéo.
Adapter à la vidéo,
exactement. Pas juste une déclinaison de la balado là, avec une caméra qui nous filme. Là. Ça, pour nous, on trouve que c'est pas nécessairement pertinent.
C'est ce qui conclut la portion questions-réponses, Seb. Des belles questions. On vous invite, on est toujours accueillants. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous en parler. Nous, on va les recueillir et on vous en reparlera dans un prochain épisode bilan. Sinon, on vous répond à même les réseaux sociaux. On est facile à rejoindre sur Facebook, Distorsion Podcast. Même chose sur Instagram, sur Twitter, c'est Distorsion Pod. Et n'hésitez pas à rejoindre notre groupe de discussion sur Facebook. Ouais. Vous allez vous faire des nouveaux amis. C'est très très actif, toujours le fun de discuter avec les gens. Vous pouvez nous envoyer des emails aussi via notre site au distorsionpodcast.com. Et puis voilà, en fait, on se revoit début mars, mais on vous a teasé au début.
Ah oui, c'est vrai.
Ah oui. Donc, j'hésite à dévoiler le sujet exact parce qu'on va vouloir vous teaser un peu.
Effectivement.
Mais je dirais que le premier sujet de la saison 3 de Distorsion, c'est une histoire française. C'est une histoire française. Toujours pas résolue. Qui est vraiment passionnante.
Ah, vraiment, ça m'a vraiment fasciné.
Il y a un twist là-dedans de meurtre, et il y a une disparition aussi liée à ça. Mm-hmm. Les Français qui nous écoutent vont déjà allumer, mais ça s'en vient. Donc notre épisode de début de saison 3 va être sur un sujet vraiment, vraiment passionnant. On a bien hâte d'enregistrer ça.
Oh oui.
Seb, est-ce que tu aurais un mot de la fin pour conclure ce bilan saison 2?
Retenez bien votre souffle, car Distorsion revient début mars 2018.
Oh oui.